L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Nous sommes en direct de midi jusqu'à 13h et ce soir c'est la rediffusion en intégrale de l'émission. Vous pouvez aussi écouter ce direct et retrouver l'intégralité de nos contenus sur le site de la radio sous forme de podcast. C'est gratuit et c'est pour l'éternité. Alors les jeux vidéo, on en parle beaucoup quand ils sont liés à des faits divers, hein, relativement sanglants, ou alors c'est pour les lapider sur la place comme des sous-produits culturels. Les dérivés, bien sûr, il y en a, mais les débats qui animent parfois certains plateaux télé, sont-ils tous fondés ou ne sont-ils qu'un amas de désinformation, quitte à se mettre toute une communauté à dos pour faire du buzz? C'est ce que l'on va essayer de voir avec First Attack, une association chargée de la préservation du patrimoine vidéoludique de Morlaix.
Bonjour Pierre-Christophe Harry.
Bonjour.
Bonjour Maëlène Mertens.
Bonjour.
Alors, comment ça va?
Ça va très bien.
Super, merci.
Alors on va parler un petit peu des dérives du jeu vidéo. Alors là, les dérives, il y en a beaucoup, et notamment une qui vient tout de suite à l'esprit de tout le monde, c'est les addictions. Alors les addictions, juste avant le Covid, l'OMS, qui est l'Organisme Mondial de la Santé, avait décrété que le jeu vidéo, c'était caca, c'était pas bien. Le Covid est arrivé, et il y a eu un bulletin de l'OMS, sorti du Covid, qui a dit, eh bien finalement, le jeu vidéo a sauvé le monde.
Oui. C'est drôle.
C'est fantastique, on est en pleine dystopie.
C'est très drôle. Alors, il y a des impacts sur la santé, sur le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça existe vraiment?
Mais bien évidemment.
Les risques d'addiction au jeu vidéo?
Mais tout à fait. Mais moi, je pousserai l'OMS, je vous en prends 10 des rapports en parlant du jogging, en parlant de la cuisine. Est-ce que les œufs plats, c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que... Non mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrête d'être bête et de se rendre compte que c'est la fréquence, la consommation, l'état d'esprit dans lequel on entreprend l'activité qui va déterminer si c'est nuisible ou pas nuisible.
Ou enfin, peut-être
c'est complètement
nuisible.
Absurde, puis cette OMS qui un coup vous sort un truc que post-pré-Covid. Ça n'a aucun sens, on en revient encore au regard, est-ce qu'il est bienveillant ou malveillant? Sur un jeu vidéo aussi, ce qu'il va falloir faire, c'est les différencier.
Les identifier.
Identifier. Vous avez les jeux que moi j'affectionne, qui sont des jeux qu'on peut lancer une partie de 15 minutes, faire un scoring, battre son score, s'arrêter, repartir, faire un Street Fighter, faire quelques matchs en ligne. Allez, salut, je dois y aller, j'ai mon plat qui m'attend, ciao. C'est pas chronophage, on peut les arrêter quand on veut, comme on veut. Arcade, jeu console, jeu comme ça. Par la suite, on a vu arriver des jeux. Ah, ça va pas être pareil. Vous allez attendre 3 heures la mise à jour, vous allez vous balader 5 heures, vous allez aller en ligne pour voir si Tartampion est connecté, vous allez perdre une partie, vous allez devoir vous reconnecter pour la map d'après. Ça n'a strictement aucun rapport, les deux catégories de jeux, donc il faut déjà bien les repérer. Et moi, je serais un très mauvais porte-parole de ces jeux-là, vu que je n'y joue pas. Pas du tout. J'ai fait le dernier God of War qui était vraiment super sympa. J'en ai pris plein la tronche, mais c'était un film interactif. Quand je repense au premier God of War qui était des Devil May Cry-like, des super jeux d'action, et quand je vois les nouveaux qui sont des TPS tout cool, où on se balade, finissable en quelques dizaines d'heures pour la quête principale, j'ai trouvé ça somptueux. Mais encore une fois, pour moi, je trouvais que ça s'écartait tellement de ce que c'est qu'un jeu au niveau de son intensité, sa difficulté. J'adore les jeux où je vais mettre des heures à réussir à passer le premier niveau tellement je crève en boucle. Il ne faut pas mettre de continu, il faut recommencer à chaque fois avec ses trois vies. À la dure, voilà, ça me plaît. Et ça, ce n'est pas chronophage. On peut l'arrêter quand on veut parce qu'on se dit, allez, je laisse un peu reposer mon cerveau et mes réflexes musculaires. Je reviendrai sur le jeu beaucoup plus fort. Alors, je pense qu'il y en a encore plein des jeux comme ça, surtout dans la scène indé qui en fournit des tonnes, des très, très, très bons jeux, Die and Retry ou des gameplays acérés. Et pour les autres jeux en ligne, les MMO, les choses comme ça, j'ai toujours regardé ça de très loin et j'ai toujours fui ce genre de choses où j'avais peur de perdre mon temps.
Moi, je pense qu'il serait super intéressant en fait qu'il y ait une étude qui soit faite en fonction du jeu auquel on joue sur les zones que ça active dans le cerveau. Parce que je pense que clairement, quand on va jouer à un jeu type Fortnite, où là, on part sur... Très clairement, on débute une partie et la frustration arrive très très vite. Et on recommence une autre partie, frustration, on recommence, frustration. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux. Je pense que les zones du cerveau qui s'activent à ce moment-là de récompense frustration ne sont pas les mêmes que, par exemple, moi j'adore les RPG. Je joue beaucoup aux RPG japonais, donc les jeux de rôle où on incarne un personnage et dans lesquels très souvent on a une équipe, on construit son équipe et on va à la découverte du monde pour aller de boss en boss et de château en château, découvrir les énigmes de la quête principale pour finir par tuer le boss principal. Et où là, au final, il y a de la réflexion, de la recherche, de l'émerveillement, puisqu'on est là à regarder les mondes qui sont créés pour nous par les game designers. Et c'est juste magnifique. Ils sont là pour nous faire rêver, pour nous poser une histoire et pour nous poser un royaume, quelque part. Et au final, je suis persuadée que s'il y avait une étude qui était faite là-dessus, les zones actives dans le cerveau, suivant le jeu auquel on joue, ne sont pas les mêmes. Les sensations, du coup, que l'on ressent ne sont pas les mêmes. La quête n'est pas la même. Qu'est-ce qu'on recherche à ce moment-là?
C'est vrai que c'est super intéressant ce que tu soulèves comme point au niveau de la dopamine, de la récompense, des choses comme ça. Ouais.
C'est vrai que c'est
intéressant.
Moi, je vais lancer un RPG.
Ça
ne sera
jamais fait comme enquête, mais c'est...
Ça se trouve, c'est fait. Hein.
Ça se trouve, c'est
peut-être,
fait.
Ouais. Qu'on ne le sait pas. Alors, si vous l'avez, appelez-nous.
Quand je bourre les chicken
savoir.
Wings avec mon Feilong, qu'est-ce que je ressens réellement?
Mais c'est vrai que moi, je peux lancer un RPG et au final, passer 3 heures dessus, mais vraiment 3 heures, hein, je n'ai pas honte de le dire, à ne pas lâcher et à me balader, à prendre mon cheval, à aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a de ce côté de la plaine? Oh, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Oh, là, les méchants, ils sont trop forts, je ne peux pas encore y aller, il faut que je fasse demi-tour, je me suis fait buter, hop, 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 je retourne en arrière. Et je peux y passer 3 heures, en fait, sans être à aucun moment frustrée, déçue. Je vais quitter le jeu avec un petit peu de... Un petit pincement au cœur en me disant, bon, hey, Mélène, quand même, là, il est 3 heures, ça fait 3 heures que tu joues, il faut que tu arrêtes, etc. Mais j'y reviendrai avec plaisir, et quand je vais partir, je vais être bien, ça va m'avoir mis de bonne humeur en fait, ça va m'avoir mis dans un monde merveilleux, on va dire ça comme ça. Et certains jeux où, type Fortnite, j'ai essayé, avant d'en parler, j'ai essayé, parce que mes enfants y jouant, je me mets un point d'honneur de jouer à ce à quoi jouent mes enfants pour savoir ce qu'elles font. Et bien j'ai rien compris à la fin, j'ai compris ce qu'il y avait à faire, mais j'ai pas compris l'intérêt en fait. On arrive... On est là, bon, on sait que le but de ce jeu-là, Fortnite, alors après il y en a d'autres, mais le but de ce jeu-là, c'est de finir le premier parmi les 50. Et au final, eh ben, au bout de 3 minutes, ben, notre partie est finie parce qu'on s'est fait tuer. Ben mince, alors c'est pas cool. Donc, bon, première fois, on recommence. Deuxième fois, on recommence. Troisième fois, on recommence. Au bout d'un moment, on va peut-être arriver premier, peut-être. Mais au final, on est toujours frustré et on sort de là. Pour moi, je ne sors pas grandi de ces expériences de jeux vidéo-là. Ça ne m'a rien apporté au niveau de mon cœur, ça ne m'a rien apporté au niveau de mon imaginaire. Et ça ne m'a rien apporté, voilà, de merveilleux. Pour moi, le jeu, ça va être du merveilleux. Et l'addiction, du coup, elle est différente en fonction de ce qu'on va avoir en termes de rapport au jeu. Et là, la sélection de jeux, elle est importante au final.
Alors, sur certains jeux vidéo, et depuis longtemps, maintenant, il y a un petit logo qui existe sur les boîtes, sur les DVD. Oh, je vois les gros yeux de Pierre.
Je sais pas ce que c'est.
PEGI.
Ah oui,
le PEGI, c'est une norme qui a été inventée aux États-Unis. Et alors là, on va rentrer dans le gras, on va rentrer dans le dur du jeu vidéo, les jeux vidéo violents. Parce que, à cause d'un certain
GTA.
À cause de Doom sorti en 1993,
le premier,
merci.
Et 94, le 2, je crois,
ouais,
si j'ai pas
93,
de conneries.
Il y a... Ah non, c'est pas à cause de Doom, j'ai dit une bêtise.
Non, c'est Wolfenstein 3D, premier qui a détruit.
Oui, mais je dis une bêtise, c'est pas à cause de Doom, c'est à cause d'un jeu qui s'appelle Night Trap.
Ah oui, sur Mega CD en full motion vidéo.
Sur Mega CD, oui.
Avec
ce jeu-là a créé une polémique de dingue, alors que le jeu était juste basé sur quelque chose de drôle. Encore une fois, c'est un jeu sexiste. Là, carrément, parce que les filles sont
c'est
en petite tenue, ouais, avec des mecs qui arrivent cagoulés et tout.
Ouais. Ouais.
Et le jeu, interdiction de sortir le jeu, tribunal, personne n'était d'accord, ils ont mis au point une norme. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle aux États-Unis.
Je ne pourrais pas te dire.
Mais en Europe, elle s'appelle le PEGI.
D'accord.
Et donc, quelle corrélation peut-on faire entre les jeux vidéo violents et le comportement agressif? Puisque le PEGI est une norme qui est censée réserver certains jeux à une certaine tranche d'âge.
Alors, à la base, il y a déjà quelque chose. Hein. S'il doit se passer un problème, c'est pas le jeu vidéo en lui-même. Une personne, on va dire, minimum de conscience, de l'âge de 4-5 ans, comprend qu'un écran, c'est un écran. Si ensuite, on n'arrive pas à comprendre... Enfin, moi, je jouais à des jeux qu'on peut dire assez violent dès tout petit, en permanence, j'ai toujours su que c'est une fiction, comme quand je regarderais un film.
Alors je pense, justement, parce que vous êtes, pour moi, directement concerné, puisque vous êtes joueur et joueuse de bornes d'arcade,
oui.
Et dans les bornes d'arcade, qui dit bornes d'arcade, le premier truc
Mortal
qui
Kombat.
Nous vient... Alors je ne pensais pas forcément à celui-là directement, sans pointer du doigt un jeu en particulier,
ouais.
Mais c'est surtout des jeux de bagarre,
ouais.
Ou des jeux où on tire. Je pense au Run and Gun,
100%
donc des jeux,
c'est ça, un peu de course, mais
voilà, des jeux pour les pour les néophytes qu'on pourrait classifier rapidement de violents.
Ouais, mais ça m'a toujours fait halluciner parce que même tout petit, je me suis dit, le mec qui comprend pas que cet amas de pixels c'est de la pure fiction et c'est rigolo. C'est qu'il faut vite qu'il aille consulter, mais je pense pas que le jeu vidéo de base avait rien à voir là-dedans. Enfin, je veux dire, on parle d'amas de pixels quand
et
même à la base. Il y a un problème si ça pose un problème.
De tout temps, je pense, les enfants, les petits garçons, beaucoup, pour le coup, jouaient à la guerre. On a toujours joué aux méchants et aux voleurs. On a toujours joué à « je suis le policier et je vais t'attraper à l'Indien et au cow-boy ». Et il y a toujours eu ce côté... Le côté guerrier de l'homme, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est induit, qui est dans nos gènes.
Les enfants y jouent à ça, au Cowboy aux Indiens, c'est limite premier degré. C'est pour ça qu'on réserve chose que dans les jeux d'arcade, il y avait énormément de second degré. Bad Dude versus Dragon Ninja, à la fin, vous finissez avec Ronald Reagan qui vous dit « Allons manger un bon burger ». Il y avait tout un tas d'autodérision qui était tourné. Tout était caricatural, que ce soit la bagnole avec Miami Beach Outrun, enfin... Tout puait les années 80, enfin, c'est caricatural. Et un enfant le voyait, je le voyais, que c'était caricatural et marrant.
Peut-être parce que les graphismes n'étaient pas aussi poussés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à des niveaux de détail.
Avait du niveau de détail, hein, parce que quand vous passiez... En fait,
le réalisme.
C'était réaliste. Je peux vous dire que quand de la NES... Vous passiez à Dragon Ninja avec leur Marcel noir, on voyait Jean-Claude Van Damme. Hein. Les tatanes, les coups de pied hurricane et tout ça avaient un impact. Ça paraissait super réaliste vraiment à l'époque.
Ouais, mais Mélène n'est pas d'accord.
Absolument pas.
Et c'est ça qui va être intéressant.
Absolument pas. Parce qu'en fait, on oublie d'aborder, je pense le point le plus important, c'est l'accompagnement de l'enfant. C'est l'accompagnement de l'enfant qui va faire, qui va comprendre les choses. Alors nous, à l'époque, les graphismes n'étaient pas les mêmes. Et d'instinct, au final, on avait ce truc, ce n'est pas réel. Et on a grandi avec ça, donc c'est resté dans notre instinct, ce n'est pas réel. Aujourd'hui, les gamins qui ont 12-13 ans, ils ont grandi qu'avec du réalisme assez poussé au niveau du jeu vidéo, avec des graphismes qui sont complètement différents.
Du son.
Qui est quand même aussi autre chose. Enfin... je vais faire un petit peu l'analogie avec le cinéma. À l'époque, moi, j'avais 8-10 ans, je voyais Les Dents de la Mer et Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. J'étais terrorisée, mais je savais que c'était faux. Aujourd'hui, je montre un film d'horreur similaire à ma fille. Bon, je ne le ferai pas. Hein. Mais si je montrais un film d'horreur similaire à ma fille, alors qu'à l'époque, on savait que c'était du 16+, je montre un film comme ça aujourd'hui à ma fille 16+, il faut que je lui explique que ce n'est pas vrai. Au final, c'est tellement bien fait. Les effets spéciaux, les choses comme ça. Ma fille, quand on regardait Harry Potter, j'ai dû lui expliquer que c'était pas vrai, qu'il y avait des fonds verts, qu'il y avait des décors, qu'il y avait des maquillages. Et au final, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, c'est un petit peu la même chose. Et si on ne leur explique pas, qu'on ne leur dit pas, mais tout ça, c'est faux, tu sais, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, pour que ton instinct un petit peu guerrier, tu puisses le défouler sur quelque chose pour après aller faire quelque chose d'un petit peu plus merveilleux et d'un petit peu plus, je mets des gros guillemets encore une fois, d'un petit peu plus sain. Est beau, l'enfant il va pas forcément comprendre. On n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas les mêmes parents qui vont nous accompagner ou pas, on n'a pas le même cercle d'amis et on n'a pas le même, on part pas avec le même bagage. Nous on avait ce bagage justement d'enfants des années 80 qui ont grandi là-dedans et qui ont vu les choses se développer et où notre cerveau s'est adapté au fur et à mesure. Eux ils arrivent, tout est là quoi. Tout est là, à l'ère de l'IA, où justement, même des gens ont du mal à dire est-ce que cette vidéo est réelle ou ne l'est pas. Je pense qu'un gamin, aujourd'hui, il peut très vite se dire ça se passe comme ça dans le jeu vidéo, ça peut être comme ça dans la vraie vie. Et c'est là que l'adulte doit faire le travail, c'est là que, justement, moi, je pense en tout cas que le PEGI est important. C'est, mes enfants
mais il n'est jamais respecté par les parents.
Voilà, mes enfants ont l'âge qu'elles ont. Je suis fan de jeux vidéo, j'y passe des heures toutes les semaines. Mes enfants ne joueront pas à un jeu qui n'a pas le bon PEGI.
Oui, et puis il y a eu aussi une zone grise avec des petits farceurs comme les rockstars quoi, qui arrivent à faire des jeux qui peuvent être à la fois super fun, super fantaisistes, parce que GTA, on y fait ce qu'on veut dedans.
Voilà.
On peut s'éclater avec des vélos. Enfin, il y a tout. Et à côté de ça, on peut aller voir des dames et secouer une voiture dans une ruelle tout en achetant des paquets blancs à des gens dans la rue. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est que c'est un troll géant, le truc. C'est que veux-tu en faire ? Et le jeu, intrinsèquement, est génial. Des GTA 3, qui est un pur bijou. Enfin, et pourtant, je ne suis pas un jeu moderne, mais les GTA, c'est vrai que je reconnais le 4, son histoire. Enfin, c'est des très grands jeux. Il n'y a pas à dire. Avec des choses abominables pour un enfant. Mais quand moi, je jouais à GTA, même quand j'ai été adulte, quand le 3 est sorti déjà, bien adulte, bah, je faisais que faire l'imbécile sur des dunes avec des voitures, des cascades, des choses comme ça. J'ai jamais fait l'émission, quoi. De moi-même, j'avais pas envie, ça me saoulait l'émission. Je m'amusais, et en s'amusant, le jeu est fantastique. Donc c'est qu'est-ce que l'enfant va faire dans le jeu. Et là, ça devient complexe, quoi.
Et selon vous, la meilleure chose à faire, c'est d'accompagner l'enfant. C'est quoi ? C'est de le regarder jouer, lui faire des petites propositions ou...
C'est ça, soit de jouer ensemble à un jeu en se passant la manette, soit d'être au même endroit, simplement de regarder un petit peu ce que fait son enfant, lui expliquer les choses. Moi, encore hier, avec mes filles, on avait envie de jouer, papa n'était pas là, il était au boulot, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on se fait ? Et il y en a une, elle me dit, tiens, si on joue à Animal Crossing ? Bon, on a chacune pris notre Switch. Parce que voilà, on a chacune notre Switch, avec chacune notre exemplaire d'Animal Crossing, puisqu'en plus, il faut l'acheter chacun pour sa partie. Et au final, on s'est installés toutes les trois dans le canapé, chacun avec notre console, mais ensemble. Et au final, il y en a une qui a dit, oh non, finalement, Animal Crossing, ça ne me plaît pas. Et elle est partie jouer sur la PS4 à un jeu qui est complètement différent et qui a besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et je suis restée à côté. Et puis j'ai dit, moi, je pose ma console, puis je vais te regarder jouer. Puis comme ça, si tu as des questions au fur et à mesure, je te répondrai et je t'expliquerai. Et c'est aux parents de faire le boulot, en fait. On ne peut pas demander... C'est un média, le jeu vidéo. C'est un média. On ne va pas mettre son gamin au musée pour aller voir une expo de Monet et ne pas lui dire qui est Monet. C'est la même chose.
Et qu'est-ce que vous pensez de la consommation excessive ? Est-ce que vous pensez, vous qui êtes joueur et en plus parent, alors double casquette c'est chaud, Je sais de quoi je parle, comment on fait pour gérer la consommation excessive ?
De nos enfants ou la nôtre ?
Oui.
Les deux ? En général.
Honnêtement, j'ai envie de demander pour les deux. Alors, peut-être déjà commencer par les enfants puisqu'on était dans le spectre enfant.
Nous, on n'a pas de souci avec les nôtres, donc on sera un très mauvais exemple. Elles s'autogèrent automatiquement, elles ne sont pas férues. Vraiment pas férue. Ouais. La petite, à la limite, elle avait torché Breath of the Wild, mais elle le faisait d'elle-même. Et c'est vrai que nous, on a cette chance-là qu'elle s'auto-régule automatiquement. Dès qu'elle se sente un petit peu gavée, elle s'arrête.
Et puis, en fait, il faut... c'est comme pour beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a un principe de récompense. L'enfant, de base, comme pour tout autre loisir, que ce soit aller jouer dehors, que ce soit faire un jeu de société, etc. Alors, il va y avoir les moments où on le fait de nous-mêmes parce que on en a besoin humainement pour se sentir bien et pour rentrer en synergie avec soi-même et se retrouver un petit peu. Donc, il y a ces moments-là qui vont être un peu des moments libres où on va dire elles peuvent jouer au moment où elles veulent tant que les devoirs sont faits, la chambre est rangée, etc. Et à un moment, le parent, par contre, il a ce devoir de régulation de se dire, dans la semaine, on se dit qu'il y a tant d'heures de jeu réparties sur tant de jours par semaine. Et arrêter, je pense que, alors ça dépend des jeux encore une fois, mais notre enfant, quand il a joué une heure ou une heure et demie, il est temps de lui dire, allez stop, maintenant tu vas faire autre chose. Et encore une fois, c'est aux parents d'être là derrière et d'être accompagnant. On ne peut pas se plaindre d'un média si on ne s'y intéresse pas. Et qu'on ne sait pas ce qu'il apporte à son enfant, parce qu'il peut lui apporter énormément de choses.
Très clair, tout à fait d'accord avec toi. Et moi, j'ai subi ça gamin, justement, des parents qui détestaient ça. Je jouais en cachette, et du coup, je pense que je faisais beaucoup plus d'heures dans le dos chez mes amis ou choses comme ça, par rébellion et par mythe de barbe bleue, quoi. N'ouvre pas cette porte, pas de problème, j'y vais. Que réellement, plus que de raison. Et c'est vrai qu'il faut accompagner, il faut un minimum s'intéresser, sinon l'enfant risque de faire trois fois plus dans le dos.
Est-ce que vous pensez que cette consommation excessive de jeux vidéo peut nuire aux relations sociales et familiales ?
Complètement.
Oui.
Mais c'est comme n'importe quel abus. Au final, c'est pas une question que ce soit le jeu vidéo en soi. N'importe quel abus est mauvais.
On peut s'enfermer dans n'importe quoi, dans les mots croisés. J'en sais rien, la dépression a plein de visages et quelqu'un qui n'est pas bien.
Notre grande, on a un problème qui est presque inverse, c'est qu'elle passe son temps dans les livres. Alors c'est vachement bien. Elle passe son temps à lire, elle adore ça, elle découvre plein de...
Mais c'est au détriment d'autres choses.
Mais voilà, nous on se bagarre pour qu'elle aille prendre l'air dehors.
Ben oui, les journées font 24 heures pour tout le monde, donc il faut bien choisir ses hobbies.
Elle est accro aux livres. Il y a des enfants qui vont être accros aux jeux vidéo.
Au sport.
Des enfants qui vont être accros au sport. Et c'est là, justement qu'intervient le parent. Et peu importe le domaine, là on parle du jeu vidéo en particulier, mais c'est pas ce qui va faire plus de mal.
Pourquoi est-ce qu'on stigmatise tout, du coup, au jeu vidéo? On peut même
alors
dire,
ça
c'était une des choses que j'ai vues, et j'ai mis comme ça dans mes questions, le comportement sédentaire et l'obésité est peut-être dû aussi au jeu vidéo, mais on vient justement de dire pour le comportement sédentaire, on peut très bien aussi se noyer dans les livres.
Mais oui.
Oui, complètement.
Alors pourquoi
je saurais pas dire.
Pourquoi
ça, je saurais pas dire.
Est-ce que c'est les médias? On en parlait une émission précédente.
Ouais, c'est les masses médias, oui, clairement. Il y avait même des actes horribles de faits divers. On a dire que le déséquilibré, c'était il jouait à Mario Bros 2, quoi.
Je
sais pas si vous vous souvenez de Human Bombs quand Nicolas Sarkozy avait été le Tom Cruise en toquant à la porte. C'était incroyable, mise en scène par le GIGN. Oh, c'était beau. Il était maire de Neuilly à l'époque. Enfin, c'était Tom Cruise, le gars, il était beau. Tout. Et ce gars-là, que soi-disant il était vivant encore derrière avant qu'il soit tué par le raid, The Human Bomb, il joue à Mario Bros 2 sur Game Boy, et dans Mario Bros 2, il y a des bombes. Voilà. Non mais...
Et donc
voilà,
il
n'y a rien d'autre à rajouter, tout, voilà, fin de l'argument.
L'article de presse n'avait pas besoin de citer que The Human Bomb, à ce moment-là, jouait à Super
Mais
Mario
oui.
Bros.
Les Ricains jouent à Doom quand ils font des massacres de masse, c'est pas du tout de la faute de la circulation
ou un
des armes.
Enfin, Call of Duty.
Oui, voilà.
Est-ce que vous pensez, alors le Call of Duty, moi je connais un petit peu, dans les tout derniers épisodes, on a quand même certains aspects très, très, très réalistes
affreux.
Et très immersifs.
Et politisés aussi.
Ouais, de terrorisme. Est-ce que... Ouais.
Et on comprend pas l'intérêt de ce genre de jeu.
Et justement, moi, je comprends beaucoup plus pourquoi je ne joue pas aux jeux modernes. Et c'est pas parce que je suis un vieux con, j'aimerais bien m'y mettre aux jeux modernes, mais quand je vois qu'on commence à faire de la géopolitique, qu'il y a des avenants, des prises de position, voire du lobbying...
Par exemple,
au secours.
Dernièrement, là, le président de l'Ukraine, sur Fortnite, on en parlait tout à l'heure, et ça fait partie des dérives du jeu vidéo qui a apparemment remodélisé la place de la liberté de Kiev.
D'accord.
Et en fait, c'est un hub, c'est-à-dire un endroit qui permet de rassembler les gens sans qu'ils se touchent par une balle virtuelle.
Un endroit où on ne peut pas être
tué, Voilà, c'est ça, pas disparaître, pas être éliminé, pour récolter des dons pour reconstruire un dispensaire.
D'accord.
Il y a eu aussi le président Biden, qui a fait tout un volet sur Animal Crossing pour ses élections, pour qu'on vote pour lui.
C'est vraiment formidable.
Moi,
je sais pas.
C'est incroyable. Hein. Dis donc, on devrait faire ça pour tous les restes des mots du monde, oui, du coup. Ok.
Qu'est-ce que vous pensez de cette
espèce de... Je veux rien dire.
Il y a Mélène qui me fait une tête.
Personnellement, je ne suis pas venu ici pour parler de mes idées politiques. Je ne vais m'abstenir. Parce que c'est politique, là.
Sans parler de ça, sans parler de... Non, évidemment, vous n'avez pas été invité pour ça.
Non, mais là, le sujet,
Parler
de ça,
je trouve que c'est super
politique.
Grave. Ouais,
mais c'est ultra grave.
Moi, je trouve ça super grave.
C'est effrayant.
C'est pas le lieu. C'est pas l'endroit. On n'est pas là pour ça,
À la limite, ça pourrait être bien comme système. Mais là, c'est ultra vicié, quoi.
Ah, je peux pas te laisser dire ça. Non, ça ne peut pas être bien.
Non, mais
tu imagines
pas ce que j'imaginais au niveau... moi, c'est plus en villager, je trouve, que je voyais ça avec un système communiste.
Là dans un monde virtuel. Faut jamais oublier que le jeu vidéo, on est là dans un monde virtuel.
Oui, mais l'amour que t'en ressors peut être bien réel.
Oui, bien sûr. Mais on est là pour rêver. On est là pour se remplir d'émotions positives. Peu importe ce qu'on vient faire. Alors des fois, effectivement, quand on va jouer à des jeux comme Call of Duty, etc., c'est un jeu de guerre, c'est l'armée. Bon, il ne faut pas qu'on oublie derrière tout le côté stratégie et ce qui fait qu'au final, le jeu a quand même une profondeur. Par contre, qu'on vienne apporter des éléments du monde réel, comme la guerre, comme les politiques, comme... peu importe au final, les maladies ou les choses comme ça... Pour moi, ça n'a rien à faire là. Je pense qu'en fait, on veut se servir de notre univers pour servir des profits dont on n'a pas idée. Et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que le jeu vidéo est un moyen de communication qui touche énormément de monde. Et que c'est aussi un moyen d'attirer les gens à tel profit politique ou tel profit politique. Et clairement... excusez-moi du mot, mais c'est dégueulasse.
Oui, puis ça montre le côté charognard de toutes ces choses qui, depuis des décennies, sont faites par calcul, par intérêt. On va laisser crever les uns tout en essayant de sauver les autres. Voilà. Au final, je trouve que ça fait tomber les masques.
On n'a pas grand-chose aujourd'hui. Le monde est dur. Le monde est dur. On a du mal à rêver.
Il est injuste.
On a du mal à voir autre chose. On a du mal à vraiment positiver et à avoir quelque chose de beau.
Ils font tout pour.
on a plus que ça, quelque part. Les livres, la nature, les jeux vidéo. Laissez-les nous.
Profite, on n'aura bientôt plus.
Foutez-les dehors.
La nature, des choses comme ça.
Il est très négatif. Très négatif.
Ça, vous avez vu le fabuleux film des sœurs Wachowski, là, Cloud Atlas ? Moi, je vous le conseille. Voilà, petite parenthèse.
Je crois que oui.
Sur les voyages temporels, à travers une entité qui se réincarne. Ouais, et on finit dans Néo-Séoul. Alors, justement, hier, on regarde des émissions sur la Corée du Sud et des choses comme ça, sur l'aseptisation de l'être humain et la recherche absolument de la performance du corps. J'ai très peur qu'on se dirige vers des hommes automates. Hommes, H majuscule. Des hommes automates, ouais. Non, je ne suis pas pessimiste du tout. Au contraire, je suis un très, très grand rêveur. Un énorme rêveur. Après, je regarde les faits.
Ouais, et plus il y a de faits comme ça, plus vous êtes rêveur, quoi.
Ah bah, plus c'est comme ça et plus on essaye de déconnecter,
ouais,
je pense.
C'est ça, ouais.
Le jeu vidéo est là pour déconnecter.
On est quand même dans un énorme paradoxe où on est en train de se servir du jeu vidéo, pour moi, plus analogique, hein, les bornes, le Street Fighter, des choses qui ne sont pas besoin d'une connexion, pour se dire qu'on revient à l'humain, alors qu'avant, on allait dire que c'est déshumanisé. C'est très marrant comme boucle, oui. Là, ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça joli.
Oui, c'est intéressant.
C'est intéressant.
C'est intéressant, puis ça énerve aussi un petit peu.
Oh non, ça passionne. Oh non, énerve. Oui, si, vous avez raison, ça énerve. T'as raison, je vais pas mentir.
Ouais, si, ça énerve.
Ouais, je vais pas chercher d'autres mots, ça énerve.
Bon, bah merci Pierre-Christophe.
Mais de rien.
Et Mélène Mertens pour cette émission.
Mais je t'en prie.